Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, le Tour de France des initiatives éco-responsables nous amène à Lyon à la rencontre d'Anouk Louideux, fondatrice de l'Épineuse. Salut Anouk, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, ben écoute, je vais bien. Merci de m'accueillir sur Communautaire.
Eh ben, je suis très très heureuse de te recevoir, surtout en cette semaine qui je crois est très très chargée suite à ta soirée d'inauguration de vendredi dernier. Je crois aussi qu'il y a une production en cours, pas mal d'actualités. Je ne vais pas spoiler l'épisode tout de suite. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la Méditerranée à la découverte des figues de Barbarie. On va parler d'exotisme made in France, d'impact carbone, de bénéfices santé et d'entrepreneuriat aussi. Mais je n'en dis pas plus et Anouk, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
Eh bien écoute, bah déjà c'était une super présentation de l'épineuse, donc merci beaucoup. Alors donc moi je m'appelle Anouk Louideux, j'ai 26 ans et je suis en train de fonder l'épineuse, qui est une marque de jus de figues de Barbarie, sauvage et française, pour promouvoir une alimentation durable, saine et traçable. Du coup l'épineuse c'est né en fait... d'une réflexion autour des fruits exotiques que l'on consomme à tout va et qui sont très très bons, mais qui a un impact assez important sur la planète. Et puis également, en parallèle, la découverte des filières de la figue de Barbarie. Alors, je pense que la figue de Barbarie, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est le fruit qui pousse sur les cactus. Donc, on peut en trouver sur tout le bassin méditerranéen. C'est une plante qui est originaire du Mexique. Et en fait, à la découverte de cette plante-là, je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Nous en avons un peu de partout dans tout le sud de la France et on n'en consomme pas, ou en tout cas, ceux qui habitent dans le nord n'ont jamais entendu parler de ces cactus-là.
Alors, comment t'es venue cette idée ? Parce que quand on regarde ton parcours, t'as fait un passage dans les RH, un peu dans le digital. T'habites à Lyon, t'habites pas dans le sud de la France. Donc, en fait, comment s'est créé ce déclic ? Comment t'as eu l'idée ? Comment c'est venu ?
Alors, c'est vrai, hein, j'ai un parcours qui ne m'amenait pas à travailler sur un projet comme celui-ci. Mais finalement, tout est lié. En fait, bah, déjà, pour revenir un peu sur mon parcours, donc, j'ai fait un master en ressources humaines, effectivement, mais avec une spécialisation entrepreneuriat, et j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc, je savais que j'étais un peu destinée à ça à un moment de ma vie, et sachant qu'encore une fois, c'est le début du projet, donc peut-être qu'il y aura des évolutions et des changements. Et en fait, j'ai lu un rapport un jour de l'ONU qui parlait de la figue de Barbarie comme fruit du futur. Donc j'ai commencé mes petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des filières qui étaient déjà développées au Maghreb et au Mexique de par le climat qui était aride et donc propice à ces plantes-là. Et j'ai vu qu'il y avait de l'huile qui était créée à partir du pépin. Donc c'est une huile qui est antioxydant et anti-âge, donc qui est très appréciée des femmes généralement pour la peau. Et en parallèle, en fait, moi, je me souvenais que, en fait, mon grand-père habitait à Hyères, et donc j'allais tous les étés dans le sud. Et en fait, les cactus, les figuiers de Barbarie, étaient utilisés et sont utilisés comme ornement autour des maisons. Donc, en fait, on en voyait tout le temps. Mon frère, il est tombé dedans, il avait des épines de partout. En fait, voilà, on avait toujours cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est rigolo. Aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde a une histoire avec le figuier de Barbarie. C'est, mais en fait, j'ai déjà essayé et je me suis piquée. Donc, j'ai jamais voulu re-essayer. Mm-hmm. J'en ai jamais mangé, du coup. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire déguster le fruit sous une autre forme pour que les gens ne se piquent pas.
Mais du coup, tu disais que c'était un fruit sauvage. Donc, est-ce que tous les fruits des figuiers se mangent ?
Alors, il y a plus de 140 espèces de figuiers de Barbarie, avec des goûts, des couleurs, des valeurs nutritionnelles différentes, et sûrement certaines espèces qui ne se consomment pas. Aujourd'hui, moi, je travaille sur de la sauvage. Donc, elle s'appelle Opuntia stricta. Et c'est des petits fruits violets, on dirait vraiment des figues en fait, avec des épines. Et celle-ci, elle se consomme. Elle a un goût acidulé, mais par exemple, il va y avoir une autre qui est un peu plus grosse, qui va être plus dans les jaunes-oranges, qui s'appelle l'Opuntia ficus indica. Et elle, par exemple, elle se consomme également et elle va pas du tout avoir le même goût. Elle va être un peu plus sucrée.
D'accord. Et alors, comment on fait la distinction quand si on croise un figuier de Barbarie comme ça sur le long des routes dans le sud de la France, on peut les ouvrir et les manger? Il y a un processus d'extraction un peu particulier?
Alors, en soi, les deux se consomment et généralement, on voit souvent des personnes en ramasser pour le consommer en fruits de bouche. Et par exemple, si on va à Marseille, vous verrez souvent des vendeurs ambulants qui vendent des figues de Barbarie pour les consommer tout de suite. Et donc, en fait, quand vous êtes dans le sud et que vous voyez des figues de Barbarie, vous pouvez en cueillir pour votre propre consommation, pour faire des confitures ou même pour le manger directement. Donc encore une fois, il faut faire attention, prenez des gants et une pince, c'est mieux, pour éviter d'en avoir quelques semaines après encore.
Et alors, comment on construit cette entreprise? Comment on en vient à créer le jus? Parce que tu disais aussi qu'il y avait différentes propriétés, on peut en faire des huiles, des crèmes, je crois même des tisanes avec les fleurs. D'où est venue l'idée de prendre uniquement le jus de fruits et comment ensuite on installe un process de production autour de ces fruits-là?
Alors, effectivement, donc, moi, j'ai commencé avec le jus de figue de Barbarie. Pourquoi? Parce que je me suis dit innocemment que ça allait être le plus simple. Aujourd'hui, autour du figuier de Barbarie, les produits qui sont les plus créés, donc au Maghreb ou au Mexique, ça va être surtout de la confiture, du vinaigre, des bonbons, des jus. Ça commence à arriver. J'en ai vu un nouveau là au Sénégal, par exemple. Mais ça reste une extraction un peu particulière parce que c'est un fruit qui va être assez gluant et du coup, la texture, il va falloir la travailler un petit peu avec des filtres particuliers. Donc, quand j'ai commencé le projet, je m'étais vraiment dit sur le jus. Alors déjà, pourquoi le jus? En fait, moi, c'est vrai que donc, je suis végétarienne depuis quelques temps, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas d'œufs, à part s'ils sont déjà transformés, et je fais attention à mon empreinte carbone quand je consomme des produits. Et en fait, les jus, naturellement, tout le monde boit des jus d'orange. Et en fait, les oranges, ça ne pousse pas en France, malheureusement. Pour produire 1 kg d'orange, il faut 560 litres d'eau à peu près, donc c'est l'équivalent de 11 douches. Et en fait, après, et sans compter tout le transport en avion ou en bateau, donc en bateau, c'est plutôt respectueux, mais même, c'est des produits qui viennent à l'autre bout de la planète, et en fait, on s'en rend même plus compte. Donc moi, je me suis dit, ben, en fait, la figue de Barbarie, c'est considéré comme un fruit exotique. Et pourtant, on peut le produire localement. Donc, ça répond un peu aux enjeux du réchauffement climatique. Et en même temps, ça répond aux envies des consommateurs qui ont envie de découvrir des nouvelles saveurs.
D'accord. Alors, comment on en extrait le jus de ces fruits-là? C'est qu'il y a la main, c'est... Okay. Comment ça marche?
Alors, du coup, je pense que c'est important de les mentionner. Je travaille avec deux partenaires que j'ai pu rencontrer à travers mes différentes recherches. L'association Cerber Cactus, qui est une association de viticulteurs qui veut promouvoir la figue de Barbarie et qui est à Cerber, donc c'est la ville la plus au sud de France. Et eux, en fait, ils travaillent vraiment pour voir comment ils pourraient adopter de nouvelles cultures autour de la figue de Barbarie. Donc avec eux, on ramasse les figues de Barbarie, on les récolte. Et donc là, nous, on est équipés et on va dans les différentes friches, sur les différentes parcelles pour aller ramasser les figues de Barbarie. Donc on est bien équipés. Et ensuite, on amène tout ça au domaine de la Mer Blanche. Le domaine de la Mer Blanche, ils sont basés à Argelès. Et c'est un domaine arboricole spécialisé sur l'arboriculture méditerranéenne en bio. Donc lui qui a déjà l'habitude de travailler sur la figue de Barbarie, c'est très rare. En France, j'ai dû appeler 4-5 transformateurs dans différentes régions. Et en fait, à chaque fois, c'était on n'a jamais travaillé ça, ça me paraît un peu compliqué. Et lui, vu qu'il avait déjà travaillé, on a pu le faire ensemble. Et donc, en fait, il y a différentes... Donc, c'est un laboratoire transformation où il y a différentes machines. Et en fait, il y a une première machine qui va permettre d'enlever la peau et après de propulser la pulpe dans un filtre avec un filtre à 0,6 mm. Alors, c'est un peu technique, mais il avait fait plusieurs tests, donc le transformateur, pour vraiment savoir à quel moment l'aspect gluant partait et en même temps qu'on garde un peu ce côté épais. Et voilà, donc 0,6. Et en fait, là, on sépare le pépin et la pulpe avec l'objectif, bien évidemment, de valoriser le pépin. Parce que ce qui est intéressant dans le figuier de Barbarie, c'est que tout se consomme et du coup, on rentre vraiment dans une démarche zéro déchet. Et après, la pulpe, on l'a fait donc en fait avec celle qu'on utilise pour les jus de l'épineuse, elle est assez acide, donc en fait elle va mettre du temps à s'oxyder. Donc en fait on peut la laisser s'aérer pour que la mousse part et que le jus se repose, et après on va le pasteuriser. Et pareil, vu que c'est assez acide, on peut utiliser une pasteurisation qui est assez basse, à 75 degrés, pour garder le plus de nutriments possible.
Oui, c'est une des questions que j'allais te poser parce que il me semble que dans les typiquement la vitamine C, elle s'oxyde assez rapidement. Donc quand on presse une orange, il faut quand même consommer le jus assez vite. Donc là, c'est quand même des jus que tu vas mettre en bouteille. Donc quelle est finalement la teneur en vitamines, propriétés, nutriments qui est conservée après la mise en bouteille, après l'extraction?
Alors effectivement, hein, dans tous les cas, si vous avez la possibilité de consommer des fruits frais ou un jus de fruits frais, faites-le, parce que c'est là où vous aurez toutes les vitamines, les minéraux qui sont nécessaires au corps. Là, il faut savoir que moi, mes jus, je les ai envoyés dans un laboratoire pour avoir les retours justement et savoir comment je peux communiquer dessus. Donc j'attends les résultats et j'espère... d'ici peu pouvoir avoir les réponses à ces questions. En tout cas, le fruit en tant que tel, il est vraiment source de vitamine C, source de magnésium et de fibres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pauvre en glucides. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui ont qui sont diabétiques ou qui ont des régimes particuliers ou qui font attention à leur consommation de sucre.
Oui, parce que souvent, c'est très, très sucré, en fait, les jus, on se dit, c'est sain, c'est frais, c'est juste un fruit, c'est pas un biscuit, mais en fait, il faut quand même faire attention à la teneur en glucides. Et alors, tu parlais des pépins qui sont aussi réutilisés. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les pépins?
Alors, les pépins, ils sont utilisés plutôt en cosmétique. Les pépins, donc, on peut prendre l'exemple du Maghreb, en fait, ils ont développé toute la filière du pépin pour faire de l'huile de pépin. Qui est utilisé dans les cosmétiques. Donc aujourd'hui, on peut voir beaucoup, beaucoup de grosses marques qui utilisent l'huile de pépin. Donc il faut savoir que toutes ces marques-là, elles utilisent les pépins du Maghreb, hein, et l'huile généralement de Tunisie. Et du coup, ça peut faire. On peut l'utiliser en crème, on peut l'utiliser en huile, on peut l'utiliser pour des shampoings, ça peut faire des beaux cheveux. On peut l'utiliser vraiment sur la peau comme ça, en fait. Après, il faut savoir que c'est l'huile la plus chère sur le marché des huiles. Donc, pour donner un exemple, elle se vend à 1000 euros le kilo, 1000 euros le litre. Et nous, en fait, avec le transformateur avec qui je travaille, on aimerait beaucoup créer une huile française.
D'accord, ça fait partie des questions que j'allais te poser par la suite. C'est qu'effectivement, est-ce que tu avais envisagé un partenariat avec ces marques-là? Comment tu le gères, en fait? Qui détient aussi le fruit, en fait? Parce que j'imagine que tu te bases sur des arbres qui sont déjà existants et qui produisent leurs propres fruits. Donc, tu n'as pas créé une sorte de verger ou de propriété. Tu n'as pas tout créé de A à Z. Tu réutilises des arbres qui existent déjà. Mais du coup, qui détient le fruit? Qui va vendre ensuite les pépins? Et comment on se gère toute cette filière là?
Alors du coup, effectivement, là pour l'instant, les figuiers de Barbarie, ils sont à Cerbère, donc c'est pour ça vraiment que je travaille avec l'association qui a l'objectif de créer de nouvelles parcelles pour planter des figuiers de Barbarie. Et en fait, en valorisant, donc moi j'achète le fruit en fait aux agriculteurs, et après je vais chez le transformateur pour transformer le fruit. Et donc, à partir de là, on peut utiliser donc, la peau, le pépin, la pulpe, et pour faire différents produits. Donc, pour l'instant, je me concentre en fait vraiment sur le jus.
Et c'est toi qui revends ensuite les autres éléments, outre que le jus ?
Oui, alors à terme, effectivement, l'huile de pépin, par exemple, c'est moi qui la vendrai.
D'accord.
Et voilà, oui, voilà.
Et alors, là, en ce moment, j'ai cru comprendre qu'il y avait une production qui était lancée. C'est combien de jus de fruits que tu es en train de produire ?
Alors, effectivement, donc il y a eu une première production fin octobre. Donc là, c'était vraiment la production test avec mes différents partenaires. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et ça a super bien marché. Et en fait, il y a eu quelques intempéries. Donc, l'association, enfin, le président de l'association Cerber Cactus m'a vivement recommandé de récolter de nouveau assez rapidement. Donc, la semaine prochaine, je repars à Cerber pour organiser une récolte et une transformation pour produire 3000 bouteilles. De jus de figue de Barbarie, donc qui est vendu sur le site de l'épineuse.com et puis également au sein de différents restaurants, bars à cocktails, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. En fait, je passe la semaine là-bas, je récolte avec l'association et ensuite avec le transformateur, on transforme également, on transforme et on met en bouteille. Et après, je m'occupe de toute la logistique aujourd'hui parce que c'est des quantités qui peuvent être gérés par une personne. À terme, ça sera plus forcément le cas. Mais du coup, je prends un utilitaire et je fais Lyon-Cerber et puis après Cerber-Lyon avec les bouteilles dans le, dans le coffre.
Et ensuite, tu postes et c'est toi qui lances les expéditions.
Exactement.
Du moins pour le B2C. Et puis, on va en parler après de toute façon sur la partie B2B. Ça, après, c'est des quantités qui sont plus importantes, mais du coup, il y a moins de petites destinations différentes à gérer.
Mmh. Oui, exactement.
D'accord, très bien, intéressant. Et comment t'es venu le nom de l'épineuse ? Alors, du coup, c'est effectivement des fruits qui piquent. Mmh. Pourquoi pas l'épineux ? Pourquoi pas autre chose ?
Alors déjà, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom. C'est le moment de le dédicacer à ma chère amie Céline qui voulait à chaque fois que j'écrive Céline sous le nom de l'épineuse. C'était au cours d'un brainstorming avec des amis où je leur disais qu'il faut qu'on trouve un nom absolument pour la marque. Au début, j'étais partie sur des jeux de mots avec la figue de Barbarie. J'en cherche encore, donc si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à me les transmettre parce que j'ai un peu de mal. Donc on a fait un brainstorming, elle a dit « mais pourquoi pas l'épineuse ?» Et en fait, on s'est rendu compte, déjà en anglais, c'est « prickly pear », c'est la poire épineuse. Mm-hmm. Et puis, ça va totalement avec la plante qui a des épines. Mm-hmm. Et alors, pourquoi pas l'épineux ? Parce que déjà, je me bats pour féminiser tous les mots. Donc, je suis une femme et j'entreprends. Voilà, donc, je ne vois pas pourquoi on devrait dire l'épineux. Donc, l'épineuse. Et
ça te fait un joli clin d'œil, peut-être aussi, en tant que porteuse du projet.
Alors, on me dit ça souvent.
Peut-être un révélateur d'un tempérament, je ne sais pas.
Mon entourage dit ça.
Donc comme ça, chacun aura sa version. Quoi.
C'est ça.
On parlait de la production. J'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus. Les figuiers, ils produisent toute l'année. Est-ce qu'il y a des saisons pour récolter des fruits ? Auquel cas, tu es obligé de stocker pour, en vue d'une livraison ultérieure ?
Alors, très très bonne question. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais que fallait que j'aille produire la semaine prochaine alors que j'avais prévu ça au mois de janvier. En fait, il y a différentes périodes. C'est-à-dire que la figue de Barbarie cultivée, donc l'indica, normalement la période, elle est en France, elle est entre septembre-octobre. Par contre, sur de la stricta sauvage qui est beaucoup plus résiliente, qui tient mieux et qui où on peut lui laisser un peu plus de temps sur l'arbre ou même tomber. En fait, c'est des fruits qui sont très tenaces. Donc, en fait, on peut les ramasser entre octobre et janvier. Donc en soi, donc par contre, il y a une saisonnalité, effectivement, l'arbre reprendra, repartira en production et l'année prochaine. Donc il n'y aura pas de possibilité de produire en fait des jus de figues de Barbarie, par exemple, entre février et octobre prochain.
Et donc là, tu estimes que la production, enfin que la récolte hein, que tu vas opérer la semaine prochaine, va te permettre de tenir globalement jusqu'à quand?
Alors, en soi, cette année, c'est vraiment une année de lancement de marque, c'est-à-dire qu'on teste. C'est pour ça que je fais un pur jus. Le pur jus, c'est un goût très singulier, c'est assez acidulé, il y a une couleur qui est absolument incroyable. Et en fait, d'avoir un pur jus, ça permet vraiment de voir avec quelle note, quelle saveur on peut le mélanger. Du coup, ces 3000 bouteilles, c'est vraiment pour tester le marché et voir après l'année prochaine sur quel produit on part. Aujourd'hui, j'ai quelques petites idées, mais peut-être j'en parlerai ultérieurement parce que c'est encore en travail et en réflexion. Mais du coup, pour l'instant, voilà, c'est sur le lancement de la marque. Et,
ouais, tu testes le marché, sachant qu'il y a plusieurs possibilités par la suite d'utiliser ces fruits ou une autre variété pour voilà, élargir peut-être ton panel et satisfaire peut-être d'autres consommateurs ou d'autres attentes.
C'est ça, oui.
D'accord. Et aujourd'hui, il y a des parcelles qui sont gigantesques de figues de Barbarie, je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il y a suffisamment pour produire ce que tu as prévu de produire? Alors, en l'occurrence, là, c'est la première production et ça changera, ça évoluera certainement par la suite. Mais se dire, demain, si tu veux remplacer tous les jus d'orange dans les rayons de supermarché, est-ce que du coup, il y aurait suffisamment de figues de Barbarie pour assouvir une consommation nationale?
Alors, dans tous les cas, je ne préconise pas une consommation nationale, dans le sens où c'est important d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Donc déjà, je ne veux pas créer une filière qui remplacerait d'autres filières. Je veux vraiment que ça soit en complémentarité avec d'autres fruits et d'autres légumes. Et pareil, l'objectif, c'est d'avoir mes propres champs, ou en tout cas de travailler en partenariat avec des agriculteurs pour vraiment avoir une récolte annuelle. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est le premier jus national. C'est la première fois voilà, qu'on entend parler d'un jus de figue de Barbarie sauvage et français. Du coup, aujourd'hui, on ne pourrait pas. On ne pourrait absolument pas parce que les ressources sont rares. Après, si demain, la demande est très forte, il y a des possibilités de trouver des productions en Espagne, en Italie. Après, aujourd'hui, moi, ce n'est pas du tout mon envie, ce n'est pas du tout mon objectif. Exactement. Ça ne répondrait pas du tout à ma mission et à mes valeurs.
Et un figuier, demain, pour en replanter, si tu avais besoin d'avoir soit tes propres parcelles, soit d'augmenter le rythme de production, est-ce que dès la première année, dès le premier été, hop, il fleurit et c'est bon, on peut avoir des figues ou est-ce qu'il faut attendre, je sais pas, 2, 3, 5 ans avant qu'ils soient suffisamment grands et matures pour pouvoir espérer les récolter? Et est-ce qu'il faut aussi les mettre un petit peu en jachère de temps en temps pour que le figuier reprenne un peu quelques forces pour redonner de plus belle l'année suivante?
Alors, c'est une plante qui est extrêmement résiliente et qui commence à rentrer en production au bout de la troisième année. Donc, si on plante par exemple en 2022, ça veut dire qu'il faut attendre 2025 exactement pour avoir les premiers fruits. Et après, c'est une plante qui, d'année en année, va avoir une production de plus en plus importante. Donc, qui peut doubler de chaque année. Et après, donc là, on n'a pas ce recul-là, en tout cas en France, pour savoir s'il faut laisser un temps d'adaptation ou un temps, en tout cas, on n'a pas le recul pour savoir si pendant une année, il ne faut pas récolter. Mais ça reste une plante qui produit assez facilement, sans eau, sans entretien.
D'accord, donc la plante n'est pas source de contraintes. En revanche, dans les premières lignes de production, qu'est-ce qui a été compliqué à mettre en place? Où est-ce que tu as pu rencontrer éventuellement des difficultés ou certaines contraintes aussi, parce que certaines limites du fait de fabriquer en France, parce que autant tu récoltes localement, mais après tous les processus sont quand même très artisanaux et locaux. Donc est-ce que ça t'a créé des difficultés? Est-ce que tu aurais pu te dire, bah tiens, je préfère autrement, mais du coup je respecte pas mes valeurs d'engagement sur l'impact carbone ou sur l'environnement, et du coup je dois contourner ces contraintes ou penser les choses différemment de si c'était simplement un jus à créer?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu à me poser la question. C'est-à-dire que ça fait 7 mois que je suis sur le projet. Au tout début, je m'étais posé la question de travailler avec des pays du Maghreb. Et en fait, on était en période du Covid déjà. Je me disais, mais en fait, là, les fruits, ils vont faire ils vont soit prendre l'avion, soit le bateau. En fait, l'impact carbone, il va être énorme, quoi. En fait, il y a pas du tout, ça va pas du tout faire ressortir mes valeurs, et ça va pas du tout répondre à ce que j'ai envie de partager avec mes futurs consommateurs. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai vraiment pris l'initiative de regarder ce qui se passait en France. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis en contact avec toutes les personnes qui font de la figue de Barbarie en France. Et du coup, je n'ai pas eu la question encore de me dire, OK, là, j'ai une demande qui est super forte. Il y a des opportunités business, très clairement. Hein, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas eu encore à le faire. Là, en soi, je n'ai pas du tout la réponse. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an. Dans 2 ans, on n'en sait rien. Moi, l'objectif, c'est qu'en 2022, on puisse planter des parcelles en agroforesterie avec des figuiers de Barbarie et voir les autres plantes qui peuvent être complémentaires avec ces arbres-là, pour que justement, je n'ai pas à me poser la question.
D'accord, ok, très bien, très très clair. Ta production, elle est labellisée, Made in France, Origine France garantie, bio, quelque chose, ou simplement tu communiques sur l'origine des figuiers, et que du coup, simplement, cette origine témoigne d'elle-même, et du coup, t'assures en fait une sorte de crédibilité auprès de tes consommateurs.
Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de label. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la figue de Barbarie qui est sauvage. Alors déjà, pour rappel, quand c'est écrit sauvage, ça ne peut pas être bio. Et c'est très important de le signaler, parce qu'il y a beaucoup de marques qui écrivent bio et sauvage. Sauf que sauvage et bio, c'est incompatible. Bio, ça veut dire...
très intéressant.
Ça veut dire respecter beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes qui sont coûteuses. Qui sont très très coûteuses pour les agriculteurs qui pouvaient déjà avoir des processus hyper naturels, hyper dans le respect de la plante, de la terre, du climat, mais qui ont dû forcément, pour être labellisés, passer par le protocole, et en fait ça peut être hyper relou et coûteux. À terme, bien évidemment, les parcelles que j'aimerais mettre en production, elles seront bio, parce que ça rassure, très clairement, ça rassure. Et je pense que c'est important aujourd'hui de rassurer le consommateur, parce qu'il y a tellement de produits où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on manque d'informations. Donc en fait, si le label peut rassurer, eh ben, on le fera. Donc à terme, je vise des labels, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de label. Et après, mon grand rêve aussi, c'est qu'il y ait un label de la figue de Barbarie française, limite Cerbère, voilà, vraiment créer un peu toute cette filière-là finalement.
Mais très intéressant de savoir qu'on ne peut pas mettre un label bio sur une production qui est sauvage. C'est bien de rappeler, parmi cette jungle de logos, de labels, etc., ouais, de packaging le plus green, qu'en fait, il y a aussi un sens derrière tout ça, et qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir un super logo bio pour consommer du local, du Made in France, du sain aussi. Et beaucoup en l'occurrence, un produit qui a beaucoup de propriétés. Est-ce que tu peux nous repartager davantage de chiffres concernant l'impact de ton jus de figue de Barbarie à la fois sur la santé, mais également sur l'environnement? Tu parlais tout à l'heure du rapport de l'ONU qui est assez édifiant, hein, qui, donc tu disais tout à l'heure, qui qui considère que la figue de Barbarie serait l'avenir de l'homme. J'ai même qui considère que c'est un fruit qui pourrait permettre d'éviter, pas que le fruit, mais l'arbre de manière générale, la famine dans le monde. C'est quand même des propos qui sont assez édifiants. Enfin, aujourd'hui, on se dit, en fait, il y a les ressources, elles sont là, quoi.
En fait, effectivement, le figuier de Barbarie, il faut savoir que tout se consomme. Donc, en fait, il va y avoir le fruit, mais il va y avoir aussi la palme, en fait, la raquette, ce qu'on appelle le nopal en espagnol, en fait, au Mexique, on appelle ça comme ça. Et en fait, même le nopal se consomme. Il faut savoir qu'au Mexique, en moyenne, par habitant, il y a 6 kilos de nopal qui est consommé. Et en fait, aujourd'hui, ça permettrait effectivement de nourrir un pays. Pourquoi ? Parce que ça nourrit les hommes, mais ça nourrit également les bêtes.
Oui, avec l'eau qui est contenue dans l'arbre.
Exactement.
Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Madagascar en 2015, lors de la sécheresse. C'est l'arbre qui a permis de nourrir et les habitants et toute la biodiversité grâce à l'eau qui était contenue dans l'arbre, en fait. Heureusement que... on pouvait compter sur cet arbre qui est incroyable.
Exactement. Et en plus, cet arbre, il permet également de protéger des incendies. Et donc, généralement, c'est utilisé comme tel, en fait, hein, vraiment pour protéger des grands feux sur les parcelles. Soit, par exemple, au Maghreb, on l'utilise beaucoup comme ça. Et puis aussi sur Cerbère, en fait, on voit bien que là où ça, par exemple, il y a eu des grands incendies il y a quelques temps, et ben on voit bien que les figuiers de Barbarie n'ont pas pris feu et vraiment vont protéger en fait certaines parties de la terre grâce à leur, en fait, à l'eau qui est contenue dedans et leur résilience.
D'accord. Et alors, comment ils sont conditionnés ces jus ? Dans quel emballage tu as choisi ?
Alors, aujourd'hui, j'ai choisi du verre. J'ai choisi du verre, pourquoi ? Parce que pour moi, c'était ce qui me semblait le plus cohérent. Aujourd'hui, je me pose deux questions. C'est, en fait, plutôt, voilà, deux questions. C'est, est-ce que si je continue en verre, ça veut dire qu'il faut que je mette en place une consigne ? Parce qu'en fait, de détruire du verre pour en reconstruire, enfin, pareil, c'est hyper impactant et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mmh. Et en fait, je me pose la question parce que j'ai échangé avec différents entrepreneurs qui travaillent dans l'agroalimentaire et qui me disaient que finalement, il y a certains plastiques réutilisés.
Oui, éco-conçus. Ouais.
Et apparemment, ça peut être une solution aussi. Donc, je ne me suis pas plus avancée là-dessus pour ce début. Mais c'est des questions qui vont être intéressantes parce qu'en fait, en verre, c'est lourd à transporter. Donc, ça a un impact. Et le fait de le détruire pour le reconstruire, c'est également coûteux pour l'environnement.
Oui, et alors en parlant d'environnement, quelle est la couverture géographique de l'épineuse aujourd'hui ? Tu livres partout en France, tu livres, il y a peut-être un marché un peu plus local aussi aux alentours de Lyon, peut-être pour te faire connaître au démarrage. Quelle est la zone géographique que tu as prévu de livrer ?
Alors, du coup, il faut savoir que je me concentre sur deux marchés. Le premier qui va être vraiment les particuliers sur le site internet l'épineuse.com. où je mets en place un click and collect localement à Lyon, donc pour toutes les personnes qui habitent dans la région et qu'elles puissent se déplacer. En fait, c'est hyper intéressant parce que je peux échanger avec les personnes sur le projet et puis rencontrer en fait les consommateurs, c'est super intéressant. Et après, j'envoie également des colis, ce que je ne recommande pas forcément parce qu'en fait, commander une bouteille sur le site, ça peut être... il y a un impact hein, sur l'environnement forcément donc soit si vous êtes à Lyon de passage, je serais ravie de vous rencontrer et vous pouvez passer commande sur internet. Après, si c'est aussi un plaisir de pouvoir vous envoyer des produits à l'autre bout de la France, donc je reste pour l'instant sur la France métropolitaine pour les envois, et après click and collect, ça sera seulement sur Lyon. Et après en B2B, donc le B2B, ça va être plus des restaurants gastronomiques, semi-gastronomiques ou des bars à cocktails, ou des bars voilà, qui sont dans une démarche de trouver des produits singuliers en fait, pour apporter de la créativité à leur carte. Donc aujourd'hui, je me concentre sur Lyon. Et puis en fait, de par mes différentes expériences, j'ai quelques contacts sur Paris. Donc également d'aller rencontrer des restaurants, des bars, des concept stores sur Paris.
Et alors, le circuit de la distribution alimentaire, c'est quelque chose que tu as envisagé ?
Alors, forcément, quand on commence un projet, on essaye d'envisager le plus large possible. On a envie de tout faire et après, on se rend compte que ce n'est pas forcément possible ou que ce n'est pas forcément les meilleures solutions ou alors qu'on n'est pas en capacité de le faire, tout simplement. Donc, pour l'instant, la grande distrib, en tout cas, c'est pas un sujet pour moi parce que je suis quand même sur un produit de niche. On parle de figues de Barbarie, donc il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. Et il y a un vrai travail de sensibilisation. Je pense que c'est important de rappeler les bienfaits, de rappeler les intérêts écologiques, de rappeler que c'est du made in France. Et vu qu'on est sur un produit agroalimentaire, il y a également l'envie de goûter avant d'acheter. Donc pour moi, aujourd'hui, mes cibles, c'est vraiment des endroits où on peut le goûter et aussi sur Internet parce que les personnes qui vont aller sur l'épineuse.com, c'est des personnes voilà, qui vont écouter ton podcast et qui vont être déjà intéressées par les initiatives écologiques, par des initiatives et découvrir en fait de nouveaux produits.
Oui, tu n'es pas du tout sur un positionnement de produits alimentaires à consommer au quotidien, mais plutôt sur un positionnement un peu plus haut de gamme, plus singulier, avec donc une cible qui va partager les valeurs et qui va être à la recherche de saveurs aussi également, comme tu disais, de bar à cocktail. Donc du coup, avec un certain historique, une histoire à raconter pour valoriser en fait tout simplement les fruits, pas simplement juste dire « j'ai goûté un jus de fruits, il était sucré, il était super bon ». Ça va bien au-delà, en fait, ta démarche.
Exactement. Aujourd'hui, voilà, le jus d'orange, par exemple, on n'a plus besoin de le présenter. On peut en trouver sous toutes les formes, des bio, des pas bio, des concentrés, des jus extra froids, etc. Le consommateur sait ce que c'est, et, peut-être à tort d'ailleurs, hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les informations sur certains produits. Donc, il n'y a pas besoin de faire ce travail de sensibilisation. Et la figue de Barbarie, on est sur quelque chose qui est vraiment singulier et nouveau. Donc, ça attise la curiosité, bien évidemment, mais également un peu de peur, si je puis dire, parce que tout le monde se dit, mais comment ça on peut consommer une figue de Barbarie ? Les gens n'ont pas idée qu'on puisse faire un jus à base de ce fruit-là. Donc en fait, ça apporte vraiment de la singularité au jus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait en mocktail, en cocktail, dans des recettes également salées ou sucrées, ça peut être intéressant. Et j'aimerais en fait à terme que les bars, les restaurants puissent se l'approprier. Et d'ailleurs, c'est ça en fait aujourd'hui mes retours, les retours que j'ai des différents bars, des différents restaurants qui distribuent déjà les jus de figue de Barbarie, l'épineuse, c'est ah ben en fait c'est super bon, je le vois bien avec ça, ok en fait on pourrait l'utiliser en cuisine, ok on pourrait l'utiliser en coulis, en vinaigrette, on a fait plein de tests et du coup de voir en fait l'appropriation du produit avec les habitudes des consommateurs, c'est hyper gratifiant, je suis hyper fière et c'est incroyable et c'est de se dire bah c'est comme ça en fait que les gens vont pouvoir apprécier à sa juste valeur le produit.
Clairement. Et alors, tu dirais que aujourd'hui tu as de la concurrence sur ce marché-là, ou est-ce que ta difficulté, c'est pas tant de te frayer un chemin par rapport à ce qui existe aujourd'hui, parce que tu es plutôt sur un nouveau positionnement et que finalement ta principale difficulté, c'est plus de te faire connaître, de créer un peu ces nouvelles habitudes, ce nouvel réflexe de figue de Barbarie pour associer les saveurs, et qu'au final la concurrence, ça importe peu parce que ton objectif, c'est pas de te positionner au milieu d'un rayon aux côtés d'autres marques.
Alors, dans tous les cas, on est sur le marché de la boisson. C'est un marché qui est hyper concurrentiel. Je pense qu'il y a des nouvelles marques qui sortent tous les jours avec plein de belles initiatives, plein de nouveaux goûts. Et on est vraiment en fait, dans cette démarche-là de proposer des nouveaux produits. En termes de concurrence sur le jus de figue de Barbarie, effectivement, il n'y en a pas. Hein, à part localement, dans le sud de la France, il y a deux producteurs qui en font. Et encore, ce n'est même pas du jus de figue de Barbarie sauvage. Donc, c'est vrai que ça va être plus le travail en fait, qui m'attend et que j'ai déjà commencé, c'est ce travail de sensibilisation. ce travail de se faire connaître, d'aller à la rencontre des restaurants, des chefs restaurateurs et des consommateurs pour pouvoir travailler vraiment sur cet aspect de faire connaître le produit.
Super, bon, en tout cas les premiers retours sont super encourageants, donc en tout cas je te souhaite que ça puisse perdurer comme ça, et en espérant pouvoir un jour déguster une figue de Barbarie dans mon assiette, ce serait super, dans un cocktail. Quelle est la vision que tu as pour ton entreprise? Jusqu'où tu aimerais l'emmener?
Alors, je veux que... Pour moi, ce qui est important, c'est que mon projet, il est toujours un impact social et environnemental. C'est-à-dire que, à travers cette expérience entrepreneuriale, effectivement, je travaille sur un produit agroalimentaire, donc il y a un impact environnemental. Et également, je veux qu'il y ait un impact social. Impact social, moi, j'aimerais beaucoup, en fait, créer un projet d'insertion professionnelle par l'agriculture. C'est un projet qui va mettre du temps à naître et qui ne verra pas le jour tout de suite. Mais en tout cas, ça, c'est ma vision. Du coup, pour atteindre cet objectif-là, on ne va pas se cacher qu'il faut faire des sous avant. On reste une entreprise, en fait. Si on a un impact social et environnemental, c'est très bien, mais il faut qu'à la fin, il y ait un chiffre d'affaires et qu'il y ait des bénéfices pour justement réintroduire l'argent comme on le souhaite. Donc, à terme, en fait... Moi, j'aimerais vraiment participer au développement de la filière de la figue de Barbarie en France. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir proposer des produits divers et variés à partir de toute la plante. Donc, en respectant le cycle de la plante. Et c'est bien pour ça que je commence le jus, parce qu'on est en fin d'année. Après le pépin et après la raquette au printemps, j'aimerais travailler dessus. Et puis, l'objectif aussi, c'est de pouvoir... travailler avec des partenaires comme aujourd'hui qui ont le même but que moi et d'avancer ensemble pour trouver en fait des initiatives qui sont en accord avec les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux du terroir vraiment du pays catalan et puis les envies des agriculteurs qui connaissent la terre bien mieux que moi, qui connaissent leur terroir bien mieux que moi et qui peuvent du coup dire bah, en fait on pourrait faire de telle façon ou de telle façon.
Oui, c'est un projet qui clairement a du sens, parce que là on n'est pas juste sur un produit de consommation ou juste en fait utiliser un fruit. En fait, ta démarche elle va beaucoup plus loin que ça. Elle est globale, elle est sur la préservation de l'environnement, sur la valorisation du patrimoine français. Du coup, avec un caractère social en plus, tu as une vision vraiment 360 degrés en fait, de ton projet, et ça c'est passionnant.
Oui, effectivement, c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment cet aspect-là. C'était de se dire de partir de rien. Tu pars d'une feuille blanche et en fait, tu crées tout. Alors parfois, je pars un peu dans tous les sens. Il faut se rappeler qu'on est au début du projet et que je suis toute seule pour l'instant. Mais c'est de se dire, en fait, il y a de multiples possibilités et c'est de voir comment on veut le faire. Quel impact on aura, et c'est des questions en fait qui se posent à chaque nouvelle étape. Avancée en fait, c'est se dire ok, comment je fais, pourquoi je fais comme ça, comment je le justifie, quel impact ça a, ok, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement. Et puis aussi il faut rappeler aussi qu'on est au début du projet avec peu de moyens au début, donc c'est de se dire quelles sont aussi les façons les plus économiques, donc c'est de prendre le temps et en même temps de dire on essaye et on voit si ça fonctionne.
Oui, de toute façon le test and learn est juste primordial. Ouais. Et donc de production en production ou en extraction ou en contact client, le projet va s'affiner aussi de lui-même, et puis toutes les réponses vont venir certainement par elles-mêmes, par la suite, naturellement.
Oui, exactement.
Si on parlait un petit peu de toi maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment, entre tes convictions au travers de l'épineuse que tu portes, l'impact environnemental, l'impact carbone, quels sont finalement tous les gestes que tu peux adopter toi au quotidien, les gestes green, les petits tips que tu pourrais nous donner pour dire dans quelle manière ça transparaît aussi, cette démarche-là, dans ta vie personnelle.
Eh bien, oui, il y en a plein. Et en même temps, à des moments, on est happé par le quotidien. Donc, c'est de savoir comment on fait la part des choses. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis végétarienne depuis un peu plus de 2 ans. Et après, pendant le premier confinement, j'ai arrêté donc le poisson et puis les œufs aussi. Parce qu'en fait, je me rendais compte qu'avec des fruits, des légumes, des légumineuses, on pouvait avoir déjà pas mal de nutriments et de vitamines. Bien évidemment, je fais surveiller également pour rassurer papa, maman, grand-mère, pour voilà, voir que tout va bien dans mon corps et que je suis en pleine forme. J'ai couru un semi-marathon il n'y a pas longtemps, donc on peut faire du sport et être végétarien. Donc en fait, moi, ça passe surtout par l'alimentation. Donc ça veut dire que ça va être de faire le marché, ça va être de consommer des produits locaux, des fruits et légumes de saison, et de trouver les petites initiatives qui sont à côté de chez nous. Je pense qu'aujourd'hui ça manque pas. Je pense qu'on peut en trouver un peu de partout et qu'il n'y a plus besoin d'être le ou la spécialiste experte du bio et du local pour trouver. Après, ça a un prix, et ça, je m'en suis rendu compte eh bien, quand j'étais sans emploi, que en fait, j'avais une consommation qui coûtait assez cher finalement. Donc, c'est de se dire qu'il y a également des sociétés qui permettent d'avoir des prix Too Good To Go. Je pense que tout le monde connaît également, c'est assez répandu sur Lyon en tout cas et sur Paris. Et du coup, c'est de profiter en fait de ce que ces sociétés-là ont à nous offrir. Et moi, ça a commencé en fait mon travail de zéro déchet et de consommation un peu responsable. Ça a commencé également par la salle de bain. La salle de bain parce que et en fait par les cheveux. Je me rendais compte. En fait, je me rendais compte que je mettais des produits. Enfin, que je me lavais les cheveux tous les jours avec des produits assez dégueulasses. Pour la planète, où en fait en 3 semaines tu jettes un énorme flacon en plastique. Et du coup, j'ai commencé à passer au shampoing sec, shampoing solide, pardon, pas du tout shampoing sec, non, shampoing solide. Et du coup, en fait, presque tout dans ma salle de bain est en sec, en solide, je vais y arriver. Donc shampoing, savon, dentifrice et déodorant.
Ah, super.
Voilà, après, faut essayer. Il y a eu pas mal d'échecs sur les dentifrices. Les dentifrices, ils sont pas tous très bons. Il faut s'habituer aussi. Et puis parfois aussi, il faut pas culpabiliser. Ça, j'ai appris ça un peu plus tard. Faut pas culpabiliser parce que on achète un dentifrice dans une grande surface parce qu'en fait on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas les moyens à ce moment-là.
L'important, c'est de faire le maximum à son niveau et c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien.
Exactement.
Et quelles sont tes sources d'inspiration pour continuer à avancer dans cette démarche-là? Que ce soit pour toi, pour ton projet?
Alors, mes sources d'inspiration, elles sont assez larges. Là, par exemple, j'ai très, très, très envie d'aller voir le dernier film qui n'est pas encore sorti, mais qui sort bientôt, Animal de Cyril Dion, qui a fait Demain. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler.
Ouais, bien sûr.
Ça, j'ai très envie d'aller le voir. Et sinon, il y a deux podcasts que je recommande vivement, en plus de Communautaire, bien évidemment. C'est Demain n'attend pas, un podcast qui donne la parole en fait à des personnes qui veulent changer, enfin qui changent le monde à travers leur vision. Donc, c'est des politiques, c'est des chefs d'entreprise, c'est des artistes. Et un autre, c'est le podcast Green Letter, où on décortique l'écologie. Et d'ailleurs, je me suis notée là d'écouter le dernier qui est sur le vin et le changement climatique, comment faire pour s'adapter, parce que c'est très très lié à la figue de Barbarie, parce que en fait la figue de Barbarie pousse dans des endroits où il y a des vignes. Donc, c'est super intéressant.
Oui, d'ailleurs, je crois que justement le réchauffement climatique implique que les zones en fait de production devront évoluer à terme et que en fait les endroits où on récolte la vigne pourront être amenés à évoluer. Et ça change effectivement tous les modes de production. Ouais,
Exactement.
Un sujet passionnant.
Ouais. Ouais.
Super. Si tu pouvais changer quelque chose pour un monde meilleur, qu'est-ce que ce serait?
Pour un monde meilleur. Ça serait de voir...
C'est utopiste, ouais. Hein,
mais... Non, pour moi, en fait, ça serait vraiment d'informer, enfin vraiment qu'il y ait un travail d'information, de sensibilisation pour le grand public, à destination du grand public, sur l'agroalimentaire, en fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte, et ça, j'ai pris conscience de ça quand j'ai vraiment commencé à travailler sur le projet. Des rouages, en fait, de l'agroalimentaire, des filières qui se sont créées, qui se créent. Et c'est vraiment qu'il y a un travail là-dessus, parce qu'il y a une phrase qui m'avait vraiment marquée, mais dans le mauvais sens, alors qu'elle est utilisée par tous les entrepreneurs dans le bon sens, c'est de dire « Aujourd'hui, ça vaut plus cher de vendre une publicité qu'une banane. » Et en fait, c'est hyper marquant parce qu'on se dit que ben on valorise plus du tout ce qui nous permet de vivre, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment ce travail-là d'information et de sensibilisation autour de ce qu'on mange, en fait. Moi, j'adore la nourriture et c'est de... Après, c'est vrai que ça va dans ce sens-là. Je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là, donc je trouve ça bien et je veux qu'on continue. Et puis aussi la déculpabilisation. Je pense que quand on commence à réfléchir à notre consommation, d'un coup, on prend conscience qu'on consomme énormément. Donc, effectivement, c'est step by step. On est un être humain, une être humain, on ne va pas changer le monde tout seul. Donc, c'est chacun et chacune qui va pouvoir faire des petites choses, mais c'est de ne pas devenir éco-anxieux. Parce que j'ai vu que c'était un vrai sujet et même moi parfois je me dis mais waouh, il y a trop de plastique autour de moi, mais en fait ça répond pas du tout à mes enjeux, ou alors je dis oh là là, je suis pas du tout en accord avec mes valeurs, mais en fait ça arrive, et du coup de déculpabiliser là-dessus, je pense que c'est aussi important pour qu'on puisse avancer et qu'on ait un monde meilleur.
Ouais, on fait avec ses contraintes petit à petit, et chaque pas qu'on fait est déjà mieux que pas faire un pas en avant du tout. Donc tu as complètement raison sur la déculpabilisation, parce que toutes les initiatives qui naissent sont super inspirantes, mais parfois aussi un peu culpabilisatrices, en disant bah en fait oui, je suis peut-être pas assez, mais déjà faire un peu c'est déjà mieux que rien, donc c'est bon de le rappeler.
Ouais, c'est parfois même trop, c'est trop. Donc si parfois faut se couper des publicités, des réseaux, et même des livres ou n'importe quelle source d'information, de se dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et pas changer du tout au tout, hein, c'est petit à petit.
Tout à l'heure, on parlait de ce qui t'inspire au quotidien. On n'a pas parlé de ce qui te permet de progresser dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans ce nouveau projet qui est quand même assez récent, qui vient de démarrer. Tu t'es fait accompagner pour le mener ?
Exactement. Et je suis ravie que tu poses la question parce que, en fait, j'ai trop envie d'en parler.
Effectivement, 50 minutes que ça, tu attends que la question soit posée. Ouais.
Non, en fait, je suis accompagnée par Lyon Startup. Lyon Startup, c'est un concours qui est co-organisé par la région et par l'université de Lyon. Donc, en fait, j'ai répondu à un appel à projet en juin ou juillet 2021, et j'ai été sélectionnée parmi les 100 projets innovants. Donc, depuis septembre, je suis avec 100 autres créateurs, créatrices de projets. Et on a, en fait, différentes étapes pour potentiellement gagner 15 000 euros. Donc, la finale est le 15 décembre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris la nouvelle. Je fais partie des 20 finalistes. Donc, je suis genre méga, méga, méga contente.
Wow,
merci beaucoup. En fait, c'est hyper gratifiant. Ça permet vraiment d'avancer. Qui plus est, C'est certes un concours, mais c'est également un accompagnement. Et ça, en fait, je trouve ça vraiment incroyable parce que de septembre à décembre, toutes les personnes qui ont été sélectionnées donc, parmi les 100 projets innovants, on a un accompagnement. Donc, il y a des intervenants, intervenantes qui sont spécialisées en droit, en comptabilité, en entrepreneuriat, pour vraiment nous faire avancer, nous faire monter en compétences, rencontrer des personnes. En vrai, on a un réseau là qui est incroyable hein, grâce à cette initiative. Et puis après, voilà, il y a la première étape qui était au mois d'octobre. Donc, c'était le premier pitch en visio, exercice très intéressant de finir un pitch et d'éteindre son ordi et en fait d'être super excitée et en même temps de se dire bah, « je suis toute seule chez moi, donc c'est un peu bizarre ». Et puis, deuxième étape qui a eu lieu il y a deux jours, où là, c'était vraiment en réel, devant un jury, où tu pitches pendant 5 minutes sur ton projet. Tu as ce qu'on appelle la roadmap, donc c'est vraiment où tu veux aller, où tu en es et comment tu vas y arriver. Tes retours clients, genre aujourd'hui, est-ce que tu as pu vendre? Quels sont tes retours clients et comment toi, par rapport à ça, par rapport aux consommateurs et aux envies des consommateurs, comment tu modifies ton business model ou ton produit ou ta vision.
Super, donc c'est un accompagnement que tu recommanderais à toute personne qui a envie de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale.
Ouais, vraiment, c'est gratuit. Je pense que beaucoup de personnes qui se lancent sont un peu hésitantes. D'une part, c'est hyper important de se faire accompagner. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives gratuites, offertes. Il faut en profiter. Il faut en profiter à fond et il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter si vous avez une idée sur une page blanche, si vous avez une phrase, sincèrement, commencez à vraiment y réfléchir parce que ça peut être une super bonne idée et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionnée à Lyon Startup. Et ils font en plus différentes promos, donc ne pas hésiter à regarder s'ils en ont d'autres bientôt.
Bon, ben canon. Bah, encore bravo en tout cas.
Merci beaucoup.
L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant de terminer, j'aimerais qu'on passe à notre petit quiz.
Allez.
J'espère que tu es prête. Allez, c'est parti. Pour te déplacer, tu es plutôt Air France ou Blablacar ?
Blablacar.
Pour booster tes ventes, plutôt Black Friday ou Make Friday Green Again ?
Make Friday Green Again. Ouais,
super. pour te refroidir en été, acheter un climatiseur ou planter un arbre ?
Planter un figuier de Barbarie.
Bonne réponse. ma question suivante, il me semble que tu as déjà partiellement répondu, mais je te la pose quand même. Tu n'as rien dans le frigo, plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Alors en plus, je ne mange pas de viande, donc ouais, Too Good To Go.
Il n'y a pas de veggie burger, non ? Ça doit peut-être exister, je ne sais pas.
Je n'ai même pas envie de savoir.
Le lundi, c'est plutôt, alors du coup, c'est pas un steak frites, mais plutôt un steak végétal frites ou un veggie Monday ? Plutôt veggie Monday, n'est-ce pas, je peux comprendre.
Totalement.
Et avant de t'endormir, plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
Eh bien, sincèrement, ça dépend. Non, ça dépend. C'est
un peu des deux.
Un peu des deux.
Super. Eh bien, merci d'avoir d'être prêté au jeu du quiz, en plus du coup de version complètement spontanée et live, parce que du coup tout l'enregistrement sera publié tel quel et sans retouche, sans coupe, etc. Avant qu'on conclue cet épisode, il me semblait que tu voulais qu'on puisse partager un code promo. Et c'est peut-être en plus le bon moment d'offrir un petit jus de figue de Barbarie au pied du sapin pour toute la famille, pour découvrir ça. Donc, est-ce qu'on peut convenir d'un code promotionnel dont on mettra tous les détails dans les notes par la suite.
Mais bien sûr, Pauline, avec grand plaisir. Du coup, le code promo, ça sera communautaire, donc comme ça s'écrit tout attaché, et Pauline le mettra dans les détails.
Exactement, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Anouk. Bravo pour ton super parcours. Je te souhaite bon courage pour la prochaine récolte également. Voilà, on se tient au courant et je te souhaite une belle réussite dans ce projet à la fois innovant, impactant, durable et absolument passionnant.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil, Pauline. Et j'ai passé un super moment et j'ai hâte d'écouter le podcast.
Eh bien, c'est parfait. Je te remercie encore et je te souhaite une très belle journée.
Merci, toi aussi.
Au revoir, bye bye.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to20.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.